Semaine 46, salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, on enquille directement sur le sommaire.
Petit sommaire, mais de qualité, en gros.
Presse Citron, mobilisons, ce nouvel outil permet d'organiser des événements sans passer par Facebook. Un article de la rédaction.
Donc, c'est présentation d'un nouvel outil et qui met en avant le partage, la diffusion des savoirs sur du logiciel libre fédéré. Donc, ce n'est pas un outil centralisé comme Facebook et justement, il se propose de remplacer au moins dans certains éléments, donc l'organisation d'événements. Se propose de remplacer Facebook.
Est-ce que ça fait pas un peu concurrence à l'agenda du libre que tu as développé ?
De plein de manières, oui, oui. Mais tu peux aussi considérer que l'agenda libre, c'est un site centralisé qui va effectivement permettre d'alimenter, par exemple, LinuxFR, alors que Mobilisons, c'est tout le monde qui peut faire des petits sites sur d'autres sujets que le libre. Et donc, c'est tout à fait approprié en tant qu'outil. C'est même plutôt intéressant.
ZDNet France, Guido Van Rossum, le fondateur du langage Python, rejoint Microsoft. Un article de Steven J. Von Nichols.
Alors c'est une petite bombe hein, comme information, parce que Python c'est le langage considéré comme le plus apprécié et le plus recherché en ce moment dans le monde de l'informatique, dans les recherches d'emploi, dans les projets, les choses comme ça. Alors, vaste débat, hein, mais en tout cas, Python a le vent en poupe.
C'est quoi le meilleur langage ?
Exactement, et ben, c'est ça. Donc le débat est gigantesque. Et là, ce dictateur, comment on dit ?
Ce dictateur bienveillant.
Exactement, et bien il avait un peu pris de distance par rapport au projet. Il y avait des petites problématiques de personnes, hein, notamment, puis il devait être fatigué. Et ben là, c'est un peu étonné quand même. Enfin, moi en tout cas, ça m'étonne. Il rejoint Microsoft. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier à faire ça, mais ça fait un grand pas.
Peut-être que Microsoft est passé dans le camp du bien, alors.
En tout cas, ils font plein de libres, et bah, là, ils vont financer, d'une certaine manière, des gens qui contribuent au libre, parce qu'il va continuer à travailler sur ces types d'outils-là. Donc, pas mal intéressant, mais bizarre, quand même.
Acteur public, ouverture des données, des pistes pour relancer la machine, un article d'Emily Marzolf.
Donc, ça parle d'open data, et de quelle manière on peut faire en sorte que ça s'ouvre encore plus, qu'on ait encore plus accès à des données. Il y a des blocages, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles. Donc l'April est pas mal, on écoute là-dessus, sur le sujet, et, parce que bah, c'est quelque chose d'utile et important et très connexe au logiciel libre.
Rue 89, Strasbourg, professeur en informatique, Germain Forestier inspire scientifique et gouvernant sur le Covid. Un article de Jean-François Gérard.
Ce prof, il est plutôt intéressant, c'est un libriste convaincu qui partage des données, alors c'est très justement dans l'optique open data, mais lié aux cartographies du Covid. Et donc, l'épidémie et son évolution ont été compliquées à appréhender pour tout le monde, hein, les journalistes, le grand public, les politiques aussi. Eh bien, il a fourni des outils, des cartes assez sympas, un peu comme de la météo. Et ça permet de mieux appréhender notre problème actuel. Et le gars est plutôt intéressant et ça fait plaisir de voir ce genre de projet. Et puis, bah, ses revendications de partage de connaissances, parce que bah, il n'est pas en train de chercher à monétiser tout ça, à bloquer, à contrôler ce qu'il produit. Non, au contraire, il le diffuse et le partage, c'est plutôt sympa.
Un vrai libriste. Novetic, Time for the Planet, un fonds d'investissement citoyen pour décarboner l'économie, un article de Béatrice Hérault.
Alors, c'est un article qui parle pas beaucoup de logiciels libres et d'open source, mais c'est un fonds qui se propose de financer des entreprises et des petites boîtes sans faire des bénéfices et financer des entreprises qui vont partager leurs innovations et leurs découvertes ou leurs créations en open source. Donc, c'est quelque chose d'assez original. Il est prévu, en tout cas, il demande, il cherche à obtenir un financement d'1 milliard. Mais bah, on ne sait pas trop ce que ça va donner.
Il y a peut-être des gens qui se disent qu'il est temps d'agir et bah, c'est peut-être un frémissement. On peut espérer. Je suis optimiste pour une fois. Et donc, le sujet de la semaine, tu avais quelque chose.
Oui, j'ai l'intention d'enfin dévoiler le fond. Et là, je veux qu'on parle, toi et moi, de vérité, de la vraie vérité vraie avec un grand V.
C'est un sujet qui te tient vraiment à cœur, donc.
Ah, mais j'adore, parce que bah, je suis convaincu que la vérité avec un grand V n'existe pas, ou, à tout le moins, qu'elle ne nous est pas accessible.
C'est vrai.
Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression de partager ce point de vue avec un grand homme de notre époque, avec Donald Trump.
Oui, bah, je pense que vous avez beaucoup en commun. Et alors, ton interrogation est partie d'un article que tu m'as fait suivre, qui était publié sur INA Global, donc INA, l'Institut National
de l'Audiovisuel,
il me semble, qui est une interview d'un chercheur américain qui s'appelle Yochai Benkler, donc qui travaille à Harvard, et qui s'est penché sur tout ce qui s'est passé aux États-Unis avec les actions de Trump et toutes les actions au niveau politique et électoral. Voilà, qui est très intéressant, c'est des sujets dont on a parlé à intervalles réguliers. Et lui a un éclairage assez différent de plein de choses qui ont été dites, et notamment qu'on a dites nous.
Et effectivement, il remonte un peu sur bah, l'importance des médias et des journalistes, met à mal, de son point de vue en tout cas, le fait que les médias sont en train de se numériser, et qu'Internet, les médias sociaux, les réseaux sociaux, Facebook, soit devenu dominant dans la propagation des opinions et des débats. Donc non, de son point de vue, les journalistes ont encore une place prédominante, mais ils l'ont un peu perdu, c'est-à-dire qu'ils n'y croient plus, d'une certaine manière.
Oui, alors on rappelle aussi que le gouvernement britannique a étudié Cambridge Analytica pour voir si ça avait eu effectivement autant d'influence qu'on l'a dit sur le vote sur le Brexit. Et leur conclusion est que non, et que ça a été très survendu, et que c'est pas si puissant que ça. Donc peut-être qu'effectivement, on s'est tous beaucoup emballés, nous y compris, sur ces sujets-là. Ce que je retiens, moi, de l'article, c'est qu'il dit que en fait, les réseaux sociaux sont une sorte de caisse de résonance, mais que derrière ça, il y a un tempo et un vrai programme qui a été mis en place par Trump et ses alliés pour lancer des dynamiques, pour foutre le bordel, pour jouer sur les sentiments, pour pas qu'il y ait débat, qu'il y a aussi des politiques pour casser la possibilité de voter, où ils ont mis en place des politiques sous couvert d'éviter la fraude électorale qui étaient visées pour empêcher de voter les catégories de population qui ne votent pas pour eux, notamment ceux qui ont un peu trop de mélamine dans la peau. Voilà. Et que derrière, il y a un vrai plan organisé. C'est le résultat qu'on voit aujourd'hui, que ce n'est pas, comme on l'a souvent compris, une sorte de résultat d'une foule laissée à elle-même sur les réseaux sociaux et qui partage des fake news et des choses comme ça.
Et dans les mécanismes que moi, j'ai l'impression d'identifier, grâce à l'article notamment, il y a celui des médias et, on va dire, des journalistes en général qui ont perdu pied. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'à une époque, ils étaient les juges entre deux groupes partisans et les journalistes représentaient une forme d'objectivité et ils ne devaient pas prendre parti. Sauf que là, avec Donald Trump, clairement, le gars, il a mis de côté la réalité. Il s'est affranchi d'une vérité avec un V majuscule, donc de ce côté-là, à la limite, moi, je peux apprécier.
Il s'en est pas affranchi, puisqu'il a dit que c'était la vérité.
Non, il se base sur des faits alternatifs, et il ne creuse plus maintenant sur une réalité partagée et consensuelle, mais au contraire, sur des émotions que chacun ressent, et sur la vérité de l'individu, du groupe.
Oui,
du groupe
donc il reste accroché à la vérité.
Mais c'est une vérité qui n'est pas partagée, et le journaliste, quand lui va essayer d'être objectif, en tout cas, c'est souvent ce qu'il essaye d'être, parce que clairement, même eux sont conscients que c'est difficile, eh bien, ils perdent pied parce que, d'un côté, il y a un groupe qui continue à travailler sur une forme de consensus, alors que l'autre, non, il a tapé dans la table, il a tout fait tomber, et il est parti de son côté, en embarquant toute optique de mise en commun, et il a gagné clairement, là, pendant les 4 dernières années.
En gros, ce qu'il dit, c'est que, effectivement, les journalistes ayant cette position, journalistes américains en tout cas, cette position de neutralité, eh bien, ils disent, par exemple, sur la question de qui a gagné l'élection aux États-Unis, ils vont avoir tendance à dire les partis ne sont pas d'accord, ce qui est un fait, en l'occurrence.
Oui.
Mais il y a un autre fait qui est que Trump ment, et quand quelqu'un ment et que c'est vérifiable par des faits, c'est un mensonge. Et ça, c'est un fait.
Oui, mais il y a encore quelques mois, les journalistes jamais n'auraient dit d'un homme politique majeur comme le président des États-Unis qu'il ment.
Voilà.
Ça, c'était quelque chose qu'il se refusait à faire dans leur globalité.
De la même façon, les réseaux sociaux, y compris Twitter, qui n'est pas trop favorable à Trump, se sont toujours interdits de le virer en disant « il raconte juste n'importe quoi ».
Ou même « il est dangereux ».
Voilà. En revanche, ils ont commencé à mettre un petit peu des bandeaux en disant « attention,
tardivement,
ceci est faux ». Donc ça, c'est rigolo de voir le retournement dont il parle aujourd'hui, parce que ça arrive pile au moment où Trump perd l'élection, donc on sent le courage de haut niveau des journalistes.
Retournement, c'est-à-dire que maintenant, les journalistes, ils ont fait un choix, en tout cas, on a l'impression, et les grands médias américains ont fait ce choix de dire « non, là, quand il dit une connerie, on arrête ce qu'il diffuse en cours de route, ce qui est extraordinaire, et on dit que non, il dit des bêtises.
Ouais, » c'était un des résultats de la recherche, c'est-à-dire évidemment, chaque camp va avoir ses médias favoris. J'ai vu une infographie qui montrait qu'avec le fact-checking, les médias de la droite américaine étaient beaucoup plus dans les conneries que les de l'autre côté. Mais il explique qu'il y a plein de gens qui, en ne voyant pas d'éléments contradictoires dans la presse opposée ou la presse généraliste un peu neutre, finalement donnent du crédit à quelque chose qui est faux. Et c'est là que se fait la différence entre la vérité et les faits. C'est la vérité, effectivement, c'est quelque chose d'inatteignable, c'est une forme d'idéal. Le fait est quelque chose qu'on peut partager, qu'on peut vérifier. Nous sommes tous les deux assis sur des chaises et on est d'accord là-dessus, puisqu'on est face à face.
Alors, on s'est mis d'accord là-dessus, mais effectivement, moi, de temps en temps, j'ai tendance à dire « Non, tout est illusion, donc je vais prendre un peu de recul. » Donc, certes, on peut se mettre d'accord à un moment donné, si je me jette d'un immeuble, je tombe, je me fais mal, mais notre sensation ou notre optique de ce que c'est que la gravité, par exemple, c'est le résultat d'une illusion, c'est une illusion qu'on a construite depuis longtemps, qu'on remet en cause maintenant avec la relativité générale. Et on se rend compte que non, la gravité, c'est juste le résultat d'une inertie de l'espace-temps. Donc c'est quelque chose qui remet en cause la vérité qu'on avait pu construire auparavant.
Oui, tout est une illusion, certes, mais après, il y a une valeur pratique des choses. Et tu sautes du toit de l'immeuble, tu meurs. tu ne peux plus argumenter derrière comme quoi tout est une illusion.
Oui, mais là, regarde, Donald Trump, il déboule, il arrive en haut de l'immeuble et il te dit « Non, c'est des fake news, moi j'ai une réalité alternative, des faits alternatifs, je peux me jeter de l'immeuble, de toute façon, ce que tu me dis sur la gravité et l'impact au sol, je ne te crois pas, moi mon émotion c'est que je vais y arriver. »
Mais dans ce cas-là, je lui dis « Saute » et l'affaire est vite réglée.
Alors, bon, bizarrement, c'est pas ce qu'il fait, parce voilà. Qu'on peut supposer que quand même, il a bien une conscience de ce qui va arriver, et c'est une conscience commune, mais il y a des gens qui le suivent. Qu'est-ce qu'ils sont dans ce cas-là s'ils se jettent de l'immeuble ?
Des fous ou des fanatiques ? Après, je pense que dans l'humanité, hein, c'est quelque chose d'assez fréquent. Tu as une réalité qui est socialement négociée, où tu as de l'illusion, où on va se raconter des choses. Et c'est tout le temps, hein, dans tous les aspects de notre vie. Et ça permet de bouger les gens en plus. Donc, c'est pas inutile, hein, parce qu'à nous écouter, on pourrait croire que c'est vraiment caca et que c'est complètement nul. Mais il y a énormément de choses qui se font par ce biais-là. Et si on n'a pas cette partie-là, on n'arrive pas à s'organiser. Ou très difficilement.
Moi, j'ai l'impression qu'on est tous dans une pièce de théâtre gigantesque. On a des rôles. Là, autour de la table, toi, t'as le rôle de Luc. Moi, j'ai le rôle de Manu. Et c'est une forme de construction qu'on a fait avec le temps et sur laquelle on s'est mis d'accord et qui fonctionne assez bien. Tout ça, c'était un consensus, une pièce de théâtre. Trump, Boris Johnson, eux, ils sont partis sur un autre consensus. Ils ont cassé ce qui existait un peu avant, ou en tout cas, ils ont essayé. Et bah, bonne chance, maintenant, c'est mis de côté. Il va falloir reconstruire des consensus. Ça va être compliqué, peut-être même infaisable.
Un truc que j'avais trouvé très rigolo, j'avais lu un article sur une étude qui avait été faite sur des violons et des joueurs de violon. Et vous êtes allé dans un événement où il y avait plein de très très bons violonistes, hein, des musiciens professionnels, et qui a fait tester les yeux bandés des violons à différents violonistes en leur demandant de les classer.
Il y avait des Stradivarius dans le.
Voilà, il y avait des Stradivarius qui sont censés être les meilleurs violons. C'est censé être voilà, les violons qu'on n'a jamais réussi à égaler. Et il y avait des violons de très haute gamme, mais faits par des luthiers encore vivants. Et les violons haut de gamme contemporains ont tous été préférés par les gens qui ne savaient pas avec quoi ils jouaient. Ça n'empêche que plein de gens expliqueront « si, 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 tel violon, c'est beaucoup mieux ». Et ça, c'est des phénomènes qu'on va retrouver partout, tout le temps, en fait.
Donc, des croyances qu'on construit, qu'on co-construit, et effectivement, bah, on n'y coupe pas, hein, voilà. Ça fait partie de la société.
Et si on parle un petit peu d'informatique, comme il y a beaucoup d'aspects de nos activités qui passent maintenant par l'informatique, derrière, on a les logs, c'est-à-dire qu'on a des enregistrements de ce qui est fait, et du coup, ça permet de confronter à des faits qui sont « qu'est-ce que j'ai dans mes logs ?» Moi, ça m'arrive au boulot, hein, le client qui dit « ouais, le logiciel, il a fait ceci, cela »,
et on lui dit, tu remontes dans l'historique.
Voilà. Tu dis, mais t'as dû faire tel truc. Il fait, non. Et dans les logs, on voit bien qu'il a fait le truc en question. On lui dit, bah, c'est dans les logs. Et après, il va dire, ouais, mais les logs, c'est pas vrai. Or, quand on est dans le métier, on sait que si c'est dans les logs, c'est que ça a été fait.
Bah, c'est la donnée de référence. Quand on se confronte effectivement à plusieurs avis, plusieurs opinions, et des gens qui vont énoncer des choses opposées, effectivement, c'est intéressant de retomber sur une donnée de référence. Je crois qu'on appelle ça parfois... des golden records.
Oui, c'est dans un milieu encore un peu différent. C'est des gens qui, notamment, vont gérer des systèmes avec des bases de données qui sont importantes et avec plusieurs bases de données qui se parlent. Typiquement, dans une grosse entreprise, on peut avoir plusieurs systèmes qui vont gérer, par exemple, la liste des employés. Et on veut à un moment se dire, OK, je vais fixer la référence, c'est telle version, c'est ma référence. Et voilà, je connais des entreprises qui parlent d'espace vérité parce que c'est celui-là qu'on considère comme étant la vérité. Donc, on retrouve le côté conventionnel de la vérité dont tu parlais plus tôt.
On sait bien que ça, c'est une problématique qui existe déjà depuis longtemps. Mais comme tu dis, à un moment donné, on peut être confronté avec des aspects qui ne sont pas prédits par ses croyances ou mal prédits par ses croyances et qui vont se retourner contre ceux qui croient dans ces théories. Alors moi, ceci dit, je trouve quand même que c'est toujours intéressant d'avoir une petite partie de folie et que dans l'humanité, il y a des gens qui continuent à avoir des opinions complètement à l'encontre du reste. Je veux dire, si jamais il y avait un problème global, peut-être que ceux-là seraient les seuls survivants qui arriveraient à nous sortir l'humanité d'une déchéance complète, par exemple. Imaginons un vaccin qui va tuer à 6 mois de distance tous ceux qui l'auront pris. J'espère bien qu'il y aura quelques personnes qui ne l'auront pas prise. Bon, alors bizarrement, dans la plupart des cas, moi je vais le prendre le vaccin, hein, je n'en doute pas. Mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait une petite portion de l'humanité qui garde ce grain de folie et qui se mette à part. Faut juste pas que ce soit cette portion-là qui dirige le monde. Parce que c'est quand elle dirige le monde que là, pour le coup, on prend des
risques. Parce que là, ça devient une grosse portion et pas une petite. Et c'est le truc qui est terrible dans l'humanité, dans le fonctionnement social, c'est que une société entière peut basculer dans le fantasme et suivre un programme complètement délirant.
Bon, bah alors on va voir pour le programme pour la prochaine semaine. On espère que le monde sera encore là.
Oui, c'est une hypothèse, je veux bien y croire. Bon, donc à la semaine prochaine peut-être.
À la semaine prochaine.